17h08 par Jupiter. Bonsoir Charline, Juliette, Guillaume et tous les autres.
Oui, bonsoir.
On va pas trop traîner parce qu'on est en retard à cause d'une pub pour BMW.
Ça, arrêtez de le dire.
Mais alors c'était, on avait le choix entre une pub pour BMW ou une pub pour le film de Polanski.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on préfère dans ces cas? Dans les deux cas, on n'est pas.
Ça dépend quel âge vous avez, quoi.
C'est vrai. Voilà.
Allez, merci Estelle pour les infos. C'est parti.
h30 à la cafétéria de Radio France.
Mais moi, je te dis qu'on peut tout faire dans la vie, Juliette. Moi, demain, si je veux, je deviens boulanger, tu
vois. Mais c'est faux. Regarde-moi. Si. Je suis à moitié comédienne, à moitié chroniqueuse, à moitié présentatrice, à moitié écrivaine.
Eh ben, t'as quatre moitiés. C'est deux fois plus que la moyenne. Attends, c'est génial, Juliette.
Et toi, t'es pas un peu à moitié tête de con?
Mais si, mais tout en étant très intelligent. C'est ça qui est bien. Tout est compatible. Et moi, demain, si je veux, je deviens chirurgien esthétique, tu vois.
Ouais, c'est ça. Puis moi, comme ça, je deviens une moitié de Kim Kardashian. Super.
14h15, dans le bureau de Parc Jupiter.
Tiens, Charline, ton café allongé.
Merci. T'as tellement raison. Je suis une comédienne ratée, une chroniqueuse ratée, une écrivaine ratée.
Hé, Juliette, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis ça?
Bah évidemment, toi, Charline, c'est facile. Tu réussis tout ce que tu touches. Mais moi, à force d'être tout le monde, je ne suis personne.
Et prends exemple sur notre invité, Thomas Gunzig. Il est chroniqueur, écrivain, scénariste, homme de radio. Il sait tout faire. En plus, il est belge.
Ben ouais, mais c'est ça que je me tue à lui dire. Hé, Juliette, moi, si je veux demain, je deviens styliste.
Non, mais le truc, c'est que j'ai trop de casquettes.
Mais non, c'est juste que tes horizons sont larges.
Allez, voilà. Allez, Juliette, on garde la confiance là. Si je peux tout, tu peux tout.
Voilà, ça va mieux, Juju.
Voilà.
Bon, alors, et Guillaume, ta chronique, c'est bon là ou quoi?
Ma chronique. Bah. Oh putain, ma chronique.
Ah bah voilà.
Merde, j'ai oublié. Putain, il me reste 3 heures. Oh, bon, allez, je peux tout, je peux tout.
Pourquoi, Juliette, on peut tout, enfin, quand même, c'est bien de se concentrer sur un seul truc des fois. Bonjour, la France Inter, et bienvenue dans la start-up radiophonique. Donc voici la devise du jour, la nuit, tous les tchats sont gris. Et voici les trois sujets frais du jour. Le compteur de l'actualité affiche un an de gilets jaunes. Au bout de 52 samedis, quelle conclusion tirent nos dirigeants?
Moi, comme je dis toujours, hein, si t'as pas un peignoir et des mules à 50 ans, t'as pas réussi ta vie.
La Belgique vit sans gouvernement depuis 6 mois. Mais c'est un État fédéral et la Flandre, elle, a un gouvernement et elle s'en rend bien compte. Les nationalistes au pouvoir ont décidé de diminuer de 60% le budget alloué à la culture. Dans ce contexte, quel dialogue peut se mettre en place entre le pouvoir et l'artiste?
Un saltimbanque, voilà ce que tu es. Un chanteur, un paradis dans les tristes. Un paradis.
Et toi,
c'est la rengaine de notre époque. Maintenant, on ne peut plus rien dire. Sous texte, c'était mieux avant. La faute à qui? Aux millénials, cette génération, pardon, qui préfère au droit de tout dire le devoir de bien dire. Et c'est quoi bien dire? Oh, c'est beaucoup de choses. C'est par exemple, ben, pas ça.
Vous êtes un déplorable vendeur, M. Simon.
Oui, tu as appelé, c'est un saliopin.
Oh, c'était une autre époque. Et nous devons donc le casting, vous l'avez entendu, à Juliette Arnaud.
Et je vous ai réuni une belle équipe diligentée pour faire entendre les silencieux, avec d'abord celle qui sait être la voix des bêtes, car comme La Fontaine, elle sait bien que pour instruire les êtres humains, il est futé de se servir des animaux. Constance.
Bonjour à tous.
Alors,
dans ma chronique aujourd'hui, il n'y aura pas le mot pédoncule, il y aura le mot coucougnette.
Et on préfère tous. Ensuite, celui qui, comme dans la chanson de Renaud, Les Charognards, donne la parole à tous les messieurs Blancassis de Paname. Et parfois, c'est un peu fatigant pour l'espoir. Guillaume.
Bonjour à tous. Et ben oui, ça va être le cas aujourd'hui. Je vais vous parler d'art et d'humain. On parlera donc de Polanski et de son film J'accuse. Et je suis allé voir les Français.
Est-ce que j'accuse qu'on m'accuse ou est-ce que je m'accuse? Voilà.
On fera le tri. Dans ça.
Enfin, les livres, c'est bien connu, ont des tas de qualités, mais on ne peut pas dire qu'ils soient dotés de haut-parleurs. Qu'importe, avec Clara Dupont-Monod, les lettres ne seront plus jamais muettes.
Merci. Bonsoir Juliette, bonsoir à tous. On va parler du livre de notre invité.
Eh oui, celui qui sera l'élément modificateur de notre schéma narratif. Vous êtes...
Moi, Thomas Gunzig.
Ah, c'est lui. Je l'ai reconnu.
Allez, c'est lui.
Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par J.
Jupiter.
Bienvenue Thomas Gunzig.
Ah bah merci.
Vous venez de Bruxelles.
Oui, oui.
Vous publiez I Feel Good. Non, Feel Good, I Feel Good.
I Feel Good.
C'est parce que
très
je,
belle chanson.
Je suis tellement ouais. contente que
ailleurs,
vous soyez
voilà,
là.
Vous vous sentez bien en même temps.
Effectivement. On a expliqué dans le petit sketch de début que vous aviez plusieurs casquettes. Vous êtes aussi scénariste. Vous avez scénarisé le Blake et Mortimer de Skeuten qu'on avait reçu récemment. Vous avez aussi scénarisé un film dont on utilise beaucoup d'extraits dans cette émission, le Tout Nouveau Testament de Jacob van Dormael avec Benoît Poulvoorde qui joue Dieu.
Absolument.
On vous connaît aussi, Alex et moi en tout cas, comme chroniqueur sur la RTBF. Vous faites l'équivalent de la chronique de la fin de matinale.
Oui, voilà, oui, c'est ça. Hein, voilà. Une fois par semaine seulement.
On a dressé un petit portrait assez sommaire de Thomas Gunzig. Et vous avez la chance aujourd'hui, Thomas, d'avoir nos deux chroniqueuses littéraires, Juliette Arnaud, Clara Dupont-Monod. Alors, je vous laisse y aller pour un roman qu'on a beaucoup aimé.
Oui, on a beaucoup aimé toutes les trois, qui s'appelle Feel Good. Et l'argument de Feel Good, elle est suivant. Alice, mère, célibataire, chômeuse et de 45 ans, est une héroïne. Vous allez me dire comme ça, c'est une prouesse majeure, mais c'est vrai, on s'attache à chacune de ses péripéties. Oui, les siennes à elle, parce qu'à un moment donné, Alice va cesser d'encaisser et elle va rendre les coups. Alors c'est vrai, de manière parfois un petit peu désordonnée, bon, comme enlever des enfants qui sont pas les bons, parce que Alice, elle en a plein le dos de vivre, et je vous cite, tout juste. Elle en a plein le dos d'entendre les conseils des magazines qu'on n'a pas les moyens de suivre, qu'ils aillent tous se faire foutre, dit-elle souvent. C'est l'histoire d'une rébellion avec l'aide d'un écrivain qui ne vend pas de livres, mais pourtant ces deux-là vont se rebeller. Le propos qui revient souvent dans la bouche d'Alice avant qu'elle pète un câble, c'est qu'ils aillent tous se faire foudre. Tom, l'écrivain, il dit à un moment, enfin vous dites de lui, s'il était heureux, c'était parce que pour la première fois de sa vie, ayant accepté son absence de génie, il se sentait complètement libre. Alors ma question, la première, sera est-ce que vous êtes Alice, ils aillent tous se faire foutre, ou Tom, ou les deux?
Ah bah je suis les deux, forcément. Alors à la fois, je suis Alice quand du matin au soir, on subit les injonctions brutales et violentes des réseaux sociaux, faites ceci, ne faites pas cela, arrêtez absolument ceci, mais commencez cela. Et que c'est souvent des injonctions totalement contradictoires, donc qui ne vous permettent pas d'être heureux ou tout simplement joyeux dans ce monde de brut. Et puis évidemment, je suis Tom, c'est-à-dire cet écrivain moyen qui écrit depuis très très longtemps maintenant, hein, depuis maintenant mes 23 ans, et puis qui ne vend pas des masses de livres, et donc se pose forcément, comme pour Tom, à un moment, la question du talent. Au fond, si personne ou si peu de gens achètent mes livres, c'est peut-être parce qu'ils sont mauvais. Et voilà, c'est drôle ce que je vous raconte.
Non, c'est vrai que c'est ce qu'on sent quand on vous lit, et c'est ce qui permet aussi d'être extrêmement attaché et à Alice et à Tom. Alors que Tom, il a des problèmes d'érection, alors que Alice, elle a...
Non, enfin... il a des problèmes de nervosité. L'érection est quand même, oui, c'est fort, c'est vite résolu.
C'est vrai que c'est souvent ça qu'on dit. Mais c'est vrai que ça va se résoudre, mais on ne dit pas avec qui.
Voilà.
Vos deux personnages, ils sont dans une situation d'échec assez dramatique quand même. C'est écrit très drôle, hein. On s'est bien marré quand même, oui, à lire. C'est très 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 amusant. Et en même temps, vous décrivez quelque chose d'assez tragique, et on lit la force des gens qui n'ont plus rien à perdre, en fait. Puisque Tom et Alice sont tellement dans la mouise qu'en fait, à un moment, ils tentent quelque chose, mais il a fallu qu'ils perdent tout pour prendre le risque. Est-ce que, du coup, votre idée, c'est qu'il faut être complètement loser à un moment, n'avoir plus rien à perdre, pour enfin tenter d'être winner?
Oh, j'en sais rien, mais je pense pas que ce soit des personnages qui soient si particulièrement dans la merde que ça. Par exemple, Alice, il y a beaucoup d'Alice dans le monde, quoi.
Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas dans la mouise.
Ah oui,
quand
non,
on a 45 ans et pas de métier.
C'est que c'est pas très original comme portrait de femme. Il y a beaucoup de femmes célibataires, 45 ans, qui ont pas de travail, un enfant, qui savent pas du tout comment faire, et qui auront beau essayer toutes les solutions légales, officielles, qu'on préconise dans les revues, justement, il y a quand même pas de solution. Donc Alice va juste trouver une solution hors du cadre légal et officiel. Et pour Tom, il y a beaucoup d'auteurs, hein, sur les 561 auteurs de la rentrée, on en parle de 10-15, mais il en reste quand même un énorme paquet qui sont des auteurs moyens, qui seront comme Tom dans les salons du livre et personne ne leur demandera rien, qui seront sur aucune sélection de prix, qui seront dans aucun média et qui auront passé 2 ans de leur vie à écrire un livre que peu de gens liront.
Alors qu'il peut être de grande qualité, ce livre.
Ah ben bien sûr.
Et donc, un regard extrêmement mordant sur le milieu littéraire.
Ah ouais,
ça arrive
crin.
Un petit peu plus tard dans le roman.
Ouais.
Les filles, allez-y. Hein,
ouais, parce que vous y allez quand même au grand crin avec le milieu éditorial. L'éditeur de Tom, il est assez étrange. L'éditrice de Alice, elle est quand même... un peu effrayante. L'édition et la littérature obéissent à des lois de rentabilité, c'est ce que vous décrivez. Vous êtes ultra mordant avec ça. Et en même temps, me disait Juliette avant l'émission.
Ouais, et en même temps, vous vous tenez à raconter votre amour, enfin par le biais de Tom, mais à raconter un vrai amour pour les livres. Par exemple, vous citez in extenso la première page de Moby Dick. Appelez-moi ouais. Ismaël. Donc, vous êtes entre les deux. Vous dites beaucoup de bien de la littérature, beaucoup de mal du monde de l'édition.
Mais oui, voilà. Mais la littérature, c'est quand même une chose absolument merveilleuse et fondamentale, mais terriblement maltraitée, mal envisagée dans le monde dans lequel on est. Et puis, le monde littéraire est un monde qui est brutal, qui est enfin, à l'image de notre monde à nous, quoi. C'est un monde brutal, injuste, qui pousse au pinacle, peut-être quelquefois, les mauvaises personnes et qui pousse au désespoir d'autres personnes. Ouais, c'est un monde terrible.
Et ce cynisme, elle va bien le rendre au monde littéraire, votre héroïne. Alice. On n'en dit pas plus, trois petits points. On va y revenir tout à l'heure parce que votre livre parle de la société aussi. On a choisi de parler d'un an de Gilets jaunes, pas par hasard, parce que ça nous renvoie aussi à vos personnages de Feel Good, édition du Diable Vauvert. C'est Thomas Gunzig avec nous jusqu'à 18h, même si la chanson qui suit va nous transporter sur un autre fuseau horaire.
Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je souffle ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore. La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère, j'avais pas vu ma brosse à dents. Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. Un disque pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo, c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu. Mon Shetland rouge. Mon Shetland bleu. Mon Shetland bleu. Mon Shetland rouge. Oh, mon Shetland bleu.
Jacqueline Taïeb, 7h du matin, Jacqueline Taïeb qui chante aussi, j'adore cette chanson, Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres. Je vous conseille de le réécouter. Bah oui, bien sûr, j'y resterai pour quelques années peut-être, dit-elle, à 17h21 sur France Inter, et nous recevons un écrivain, scénariste également, Thomas Gunzig, qui publie Feel Good aux éditions du Diable Vauvert. Il y a un petit peu de votre éditeur dans l'un ou dans l'autre éditeur dont vous parlez dans le livre.
Alors, l'éditeur de Tom est un éditeur qui vient du Sud, et mon éditeur vient de Camargue.
Oui, ah, c'est l'arbre pâle, c'est ça, dans les éditions de l'arbre pâle. Pour ça, je me disais, il y avait sans doute un petit peu d'inspiration de ce côté-là. Et il ne vous en veut pas, tout va bien.
Non, on s'aime beaucoup.
Thomas Gunzig avec nous. Et pour l'entourer, Juliette.
Il y a Constance qui ne parlera pas de pédoncule. Clara Monod qui peut-être parlera de pédoncule.
Clara Monod.
Clara Dupont-Moreau, excusez-moi. Et Maurice.
Et la formation, bien sûr.
Polanski n'est pas pédophile. Sa victime, la plaignante, n'était pas une fillette, une petite fille, une enfant au moment des faits.
C'est le journal de presque 17h17.
Et mon cul, c'est une poulet.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on fera un point sur la cagnotte Balkany.
Ouh là 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 là, planquez votre portefeuille.
On parlera aussi de la nouvelle affaire Polanski.
Oh là 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 là, planquez vos gamines prépubères.
Oui, et enfin, on parlera de Nordal Lelandais.
Oh là là, planquez vos organes vitaux. Et on commence avec l'actualité politique.
Oui, ce matin, Valérie Pécresse s'était invitée dans la matinale de France Inter et elle a déclaré ceci.
Un homme qui dit une bêtise, c'est une bourde. Une femme qui dit une bêtise, c'est une gourde. Gourde.
Vous l'avez ?
C'est excellent.
Gourde, vous
c'est
l'avez ?
Excellent, Valoche, le mélange de Simone de Beauvoir et de Raymond DeVos.
Oui, en tout cas, elle a raison, car c'est vrai qu'une femme qui dit une bêtise, c'est totalement différent. Rappelez-vous, Valoche, 2015.
Moi, je veux une région propre, et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage.
Ok, Éric Zemmour. Allez, on continue.
Alcool toujours. Ouais. La cagnotte lancée par les soutiens de Patrick Balkany a permis de récolter près de 50 000 euros, soit 10 fois moins que la caution.
Quelle ingratitude.
On ne dira jamais assez que la vie d'un honnête homme n'a pas de prix.
Et pour tout le reste, il y a Eurocard Mastercard.
Selon la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, l'Élysée va accueillir des personnes condamnées à des travaux d'intérêt général.
Et finalement, Marine Le Pen pourrait arriver à l'Élysée plus vite qu'elle ne le pensait.
L'Observatoire des violences faites aux femmes a publié une étude sur la prostitution des mineurs et constate qu'il s'agit d'un phénomène en pleine expansion.
Roman Polanski s'est dit scandalisé.
Hein ? Mais vous êtes sûr de ça ?
Oui, non, il s'est dit scandalisé de devoir payer pour coucher avec des mineurs. Ah, désolé, j'avais pas lu jusqu'au bout.
D'accord, okay, très bien. Alors, séisme dans le sud-est, EDF stoppe 3 réacteurs nucléaires pour un audit des installations.
Une idée de destination week-end où Sibeth Ndiaye pourra emmener ses enfants.
Au Cambodge, des fouilles ont mis au jour un corps et une tête de Bouddha.
Alors cette fois, Nordal-Lelandais a un alibi. On a vérifié.
Et international encore, les entreprises japonaises interdisent à leurs employés femmes de porter des lunettes.
Une belle astuce pour les empêcher de voir qu'elles gagnent bien moins que les hommes.
Allez, une page science à présent, car une étude de santé publique dévoile les causes de mort de 2000 à 2016 et pointe une augmentation du nombre de cancers du cerveau.
Donc à partir de début 2000, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, ouais.
Attendez, pile quand la pièce arrête de pleurer Pénélope, commencez à se jouer.
Coïncidence ?
Ah, je ne pense pas.
Effectivement. Sport toujours, tennis, Julien Beneteau, capitaine de l'équipe de France qui a remporté la Fed Cup, s'est cassé le pied en fêtant la victoire.
Ah là 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 là, même quand ils jouent pas, ils ont la loose, hein, les tennismen français. On dirait des footballeurs belges.
Quoi ?
Non, rien, j'ai rien dit. On enchaîne.
Média. Le journaliste David Pujadas animera une soirée spéciale sur LCI sur le thème « Peut-on tout dire ?»
Attendez. Vous avez dit quoi ?
Le journaliste David Pujadas...
Le journaliste David Pujadas. Donc vraiment, on peut tout dire, quoi. Tout et n'importe quoi.
On peut tout dire tout et n'importe quoi. Voilà. Pas la peine de regarder. Allez hop, 2 heures de gagner,
allez,
les gars.
Terminé, allez. On enchaîne avec une actualité insolite sur la côte atlantique. Des centaines de sachets de cocaïne retrouvés échoués sur la plage.
Frédéric Becbédé a repris les cours de surf. 17h25. Parce qu'il n'y a pas que du vin blanc. Chez les éditeurs, dans Feel Good, ils carburent au vin blanc. Bon, il y en a d'autres. C'est en ce moment sur la côte atlantique.
Il faut de tout. Il faut de tout, bien sûr. La diversité.
7h25 sur France Inter. L'écrivain Thomas Gunzig avec nous. On va aborder ce premier sujet. Voilà déjà un an que sont apparus les gilets jaunes. L'INA, l'Institut National d'Audiovisuel, nous dit aujourd'hui que la couverture médiatique est sans précédent pour un mouvement social. 20% des JT ont été consacrés aux manifs du samedi pendant 5 mois. Et sur les chaînes d'infos en continu, on a compté jusqu'à 14 heures d'infos fluo sur la journée. Et ouais, putain, un an, on dirait. Hein.
Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé ? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans.
On fait le bilan, calmement, les Negmarons. Un titre sorti en l'an 2000. Thomas Gunzig, vous qui vivez en Belgique et qui regardez de près aussi la France, comme tous les Belges francophones en tout cas, si vous deviez raconter un an de gilet jaune à un ami qui sort de sa grotte, vous dressez quel tableau, vous, vu de Bruxelles?
Il était une fois
des gens bien malheureux et qui en avaient vraiment gros sur la patate, et on peut les comprendre. Ils se sont un peu énervés pendant un an. On a cru que quelque chose allait changer, puis finalement rien. Donc rien n'a changé. Non, beaucoup.
On avait commencé par il était une fois. Ça serait bien de retomber sur ses pattes.
Et finalement, le président est président, la présidente est femme du président, et les gilets jaunes sont retournés bosser. Ceux qui n'ont pas de boulot ne bossent pas. Voilà.
Voilà. Donc, c'est bien résumé. On voit bien.
C'est sympa ce qu'on le fait.
Il y a eu quelques manifestations de gilets jaunes en Belgique, mais ça n'a pas vraiment pris. Pourquoi ? Quelle serait la différence d'après vous ?
Alors ça, je sais pas, mais c'est les boutures de trucs français dans les pays étrangers, en particulier la Belgique, ça marche pas trop. On a d'autres styles, peut-être que la violence de l'État est moins importante en Belgique, vu qu'il y a moins d'État. Il y a un État plus bizarre, plus mou, moins présent. L'autorité s'incarne peu en Belgique. Alors qu'en France, elle est là. Vous avez encore vos histoires avec vos rois, tout ça. En Belgique, pas. Donc on sait pas très bien contre qui manifester et tout. Et beaucoup plus diffus. Donc forcément, il y a moins de gilets jaunes.
Et c'est vrai que l'équivalent du préfet de police de Paris pour Bruxelles est un commissaire qui dit, bon, les gens qui veulent se faire arrêter pacifiquement,
se mettre dans cette file, bon, les autres. Et ceux qui étaient arrêtés ouvraient des canettes de bière et tout ça. C'est pas le même esprit, on va dire.
C'est pas le même esprit. C'est pas le même esprit. Donc, c'est pas les mêmes manifs. Et puis, le Belge est plus, est peut-être moins nerveux, quoi.
Mais c'est normal, il y a un roi et une reine.
Ouais. Ils peuvent rien faire, en plus, les pauvres.
Thomas, vous dites que votre personnage de Alice, l'héroïne de Feel Good, c'est une fille qui naît dans un milieu social qui est la petite classe moyenne assez fragile. Le papa est prof de gym et il meurt un peu précocement. Elle trouve un petit boulot de vendeuse de chaussures. Et puis un jour, les baskets se vendent beaucoup dans les centres commerciaux et ça périclite. Elle est au chômage. Le gars qui la met enceinte la quitte au moment où elle est enceinte, etc. On comprend bien l'engrenage et elle voit, moi c'est comme ça que je l'ai lu aussi, vous insistez beaucoup là-dessus, elle voit la vie à travers son budget et son portefeuille et ce qui lui reste comme monnaie déjà le 15 du mois, quoi. Est-ce que Alice, ça pourrait être le portrait de cette France-là en jaune fluo?
Oui, dit comme ça, ça n'a pas l'air marrant, évidemment.
Non, mais c'est rigolo, parce qu'il y a c'est tragicomique. Oui,
c'est très drôle.
Oui, alors, je ne sais pas si ça peut être le portrait de cette France-là. En tout cas, j'ai parlé, moi, d'une angoisse qui m'appartient, je pense, et que je partage avec beaucoup de gens, qui est l'angoisse du lendemain, de l'argent, vu que moi, je vis un peu de mes droits d'auteur, que je ne suis pas issu d'une famille riche et que je n'ai pas d'argent de côté, malheureusement. Tout ce qui rentre sort et je me dis souvent et puis le jour où ça rentrera plus, comment je vais faire? Donc j'ai comme Alice et comme beaucoup de monde un tout petit peu peur du lendemain. Et oui, effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un petit bug dans les revenus que j'avais. Je vais recevoir l'argent, j'ai pas reçu, je devais payer mes impôts. Et effectivement, comme Alice, j'ai commencé un peu à compter, voilà, ces pâtes là elles sont moins chères et il faut faire le plein d'essence, c'est 50 balles, comment on va faire, etc. Mmh. etc. Ouais. Ce qui est intéressant avec le manque d'argent, c'est que c'est quelque chose qui occupe tout l'espace de l'esprit quand il n'y en a plus. Donc quand vous endormez, c'est le dernier truc auquel vous pensez. Quand vous vous réveillez, c'est le premier truc auquel vous pensez. Et toute la journée, ça vous habite.
Balkany, ça l'occupe, hein, du coup.
Juliette.
Et d'ailleurs, parfois, on en vient à penser à des choses folles quand on s'en sort plus. Et dans votre livre, il y a une scène démente où Alice, ne trouvant plus aucune solution, elle a deux gamins à nourrir, elle s'en sort plus du tout. Elle va voir une de ses amies d'enfance, une de ses camarades de classe, qui elle était une fille de riche,
dans une grande maison, avec un poney au fond du jardin.
Cette jeune fille, Séverine, s'est mariée avec un mec riche, donc elle est toujours très riche et elle va la voir. Et votre héroïne Alice carrément lui dit, elle lui demande même pas un prêt, elle lui dit est-ce que tu peux me donner de l'argent que je pourrais jamais te rendre. Et en fait, ça tombe sous le sens et elle se fait renvoyer dans ses 22 extrêmement brus avec la brutalité que peuvent avoir les riches dans ces cas-là. Et cette scène, elle est très troublante.
Oui, c'est assez étrange ce que j'ai pu remarquer moi, c'est-à-dire que les gens très riches vous donneront jamais de l'argent, jamais, même pas 50 balles, sous prétexte que c'est pas bien de vous assister. Il y a cette espèce de, c'est pas un service à vous rendre. Hein, il faut que tu te fasses toi-même. Et c'est quelque chose qu'on entend. C'est un discours qui est un peu omniprésent dans le monde. Hein, c'est-à-dire, il faut être flexible, mobile, et c'est bien de se démerder soi-même.
Dans la bouche des gens qui ont hérité.
Oui, souvent, oui, ils peuvent pas du tout. Non, mais ce qui est très intéressant avec des gens qui ont toujours eu de l'argent, c'est qu'ils n'imaginent pas une seule seconde ce que c'est de ne pas en avoir ou d'avoir des difficultés financières, tout simplement. Ce que c'est que l'angoisse, ce que c'est.
Mais
que
mieux, ils font la promotion du fait de pas en avoir. C'est toujours quelqu'un de très riche qui vous dit la vraie richesse, c'est un beau coucher de soleil. Voilà. La vraie richesse, c'est d'avoir le temps mort de rire. Le gars, s'il vous dit ça, vous êtes sûr qu'il a 6 euros sur son compte en banque.
Pour les 3-4 riches qui nous écoutent, j'aimerais bien quand même qu'on puisse les garder dans cette émission.
Non, mais c'est l'illustration, c'est cette horrible phrase, l'argent ne fait pas le bonheur, voilà. Alors que c'est pas vrai, évidemment, qu'il le fait. Sinon, les gens riches, évidemment, se débarrasseraient de leur argent, ce qu'ils ne font pas.
Oui, bien sûr. Oui. Et puis, les 3-4 riches qui nous écoutent, si un jour on en a besoin, on aimerait bien les garder aussi.
Non, Clara, mais il y a moi comme caution. Ils resteront pour
très
moi.
Bien. Thomas Gunzig publie Feel Good aux éditions du Diable Vauvert. Et Constounette, Constance, qui est là le mardi.
Oui.
Qu'est-ce que vous allez nous raconter aujourd'hui?
Demain, c'est la journée mondiale de la vasectomie. Alors, qu'est-ce que la vasectomie? Une maladie sexuellement transmissible qu'on attrape lorsqu'on a des rapports avec l'anus d'un vase? Non. Un prénom d'enfant de bobo? Non plus. Même si on a l'impression d'avoir déjà entendu les enfants, le goûter est prêt. On termine bien son porridge aux graines de chia, Anne-Cyprine et Marie vasectomie? Non. C'est une fausse route. La vasectomie est une technique de stérilisation masculine qui consiste à couper les canaux qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules. Quick ! Oh, ça me fait rire de dire quick sadiquement. Parce que je sais qu'à chaque fois qu'on parle de vasectomie en présence d'un homme, il est possible, si on écoute attentivement, d'entendre la peau de son petit scrotum trembler de peur. Parce que autant quand on est une femme, bouffer des hormones, se faire poser du fil à barbeler dans la boîte à soupirs, ou se faire déchirer puis recoudre la schneck après un accouchement, on gère, on encaisse, limite on kiffe. Mais pour un homme, les coucougnettes, les roustons, les burnes, les roupettes, les baloches, les valseuses, les grelots, les bourses, patouches, sujet sensible. Les saintes boules sont là pour distribuer la vie et répandre le précieux fluide de la virilité sur tout ce qui est fécondable ou pas d'ailleurs. Hein. On n'a jamais vu une grossesse de visage et pourtant... Ça doit être une sacrée pression d'avoir des couilles. Ça a l'air si précieux. Moi, si j'étais un homme, je serais pas capitaine parce que j'ai le mal de mer. Si j'étais un homme, j'aurais tellement peur qu'on m'annonce un jour Édouard. Oui, parce que je m'appellerais Édouard et ma femme, elle me dirait vous. Et j'aurais un château avec un poney dans le fond du parc. C'est mon imaginaire, alors je fais ce que je veux, merde. Édouard, restez calme. Je vous ai en prie, mais sachez que les cambrioleurs ont volé vos bijoux de famille. Oh non, Marie-Louise, c'est affreux. Appelons vite la GAN.
La GAN.
C'est une assurance. Non seulement ça a l'air incroyablement précieux, les bouliches, mais en plus, je crois que c'est très puissant. Ça sera apparemment la source de la force et de la puissance des hommes. C'est scientifiquement prouvé que les muscles sont directement irrigués en foutre. Tout comme le courage d'ailleurs, ce sera un canal qui va des couilles jusqu'au cerveau pour fabriquer du sang-froid et l'hormone qui donne le sens de l'orientation et la technique pour faire des créneaux. Vous comprenez pourquoi c'est important de ne pas trafiquer les roubignoles ? Ça pourrait entraîner trop de dysfonctionnements graves au sein de la société. On peut pas rigoler avec ça, alors qu'un utérus, bon bah, c'est une espèce de grotte vague avec des ovaires. Enfin, je dis éventuellement parce que comme c'est à l'intérieur, on ne sait pas vraiment si ça existe. Hein. C'est peut-être des inventions de bonnes femmes féministes hystériques pour se faire remarquer et casser les couilles. Et gna gna gna, la charge mentale de la contraception et blablabla, que je me paye un petit EVG de confort parce que ça me détend. Et ouin ouin ouin, on est trop nombreux sur la Terre et si on continue à se reproduire comme ça, on va crever. En tout cas, ce que je sais, c'est que jamais on dit que le monde part en vagin, on dit que le monde part en couille. Et bim.
Constance, et vous êtes en forme et on, pourquoi êtes-vous en forme ? Parce que nous sommes mardi. Et qu'est-ce que vous faites le mardi soir ? Vous êtes au théâtre des deux ânes.
Mais oui, mais c'est oui. Vrai. Mais...
Vous aviez oublié, c'est ce soir.
Mais non, mais c'est mais quand vous me dites, ça me donne envie
d'y aller. Peau pourrie, il reste quelques dates, précipitez-vous, parce qu'elle est folle comme ça sur scène aussi. Oui. Et oui.
Shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got riddles in a happy mood. Keep my moves on. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep my groove on.
Get the cool.
Gorillaz sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter. L'invité, c'est Thomas Gunzig, romancier belge qui publie Feel Good, un roman qu'on a adoré, qui est paru aux éditions du Diable Vauvert, donc notez bien. Et puis Clara Dupont-Mono va nous en parler dans un instant. Frédéric Dard disait « La chasse aux cons était un safari sans espoir ». Il a gravé cette devise sur sa tête de lit.
Quel beau lancement.
C'est Guillaume Meurice.
Eh bien, faut-il séparer l'homme de l'artiste? On va parler de ça. Vous le sentez, le débat apaisé, là? Ah, ça vous fout en l'air tous les repas de famille, ce truc. C'est pire que Taubira, Greta Thunberg ou la syphilis de votre belle-sœur. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? C'est une vaste question qui en appelle d'autres. Si Francis Holm avait su faire un travelling, est-ce qu'il serait en tôle ou aux Oscars? Eh ben, on est bien emmerdé et on ne sait pas aujourd'hui. Et ce sont des questions qui se posent car demain sort J'accuse, le nouveau film de Roman Polanski, partenariat France Inter! On aime les violeurs en série, on vous en parle. Hein, c'est vrai qu'on fait des émissions citoyennes, mais si Marc Dutroux faisait de la danse contemporaine, eh ben, on serait là pour le soutenir, on t'oublie pas, gros. Hein, la culture avant tout, et le fameux en même temps. Hein, on fait des émissions écolo, et en même temps de la pub pour BM, on fait des émissions sur la méditation, et en même temps, on invite Daniel Cohn-Bendit, qui lui, en plus, faisait la promo de la pédophilie il y a quelques années à la télé. Vous voyez, la boucle est bouclée, comme on dit dans Autofellation Magazine. C'est ça, je dirais, l'esprit Inter, mais qu'en pense le public? Je suis allé le voir ce matin dans les rues, et puisqu'on parle d'hommes et d'artistes, commençons par le cas Patrick Bruel.
Il s'est expliqué, c'était pendant la canicule, il faisait très chaud, et c'est vrai qu'en mettant des... c'est vrai, moi qui fais des massages aussi, c'est vrai que quand on est nu, c'est mieux, je veux dire, voilà.
Il supportait pas son slip.
Voilà,
alors là, doit-on séparer l'artiste de son slip? Alors ça, c'est encore une autre question. Qui a le droit à son slip de sauter sur des masseuses? Voilà, il y a plein de questions comme ça intéressantes. Le prochain album de Patrick Bruel s'appellera-t-il Place des Glands Hommes? On ne sait pas, voilà, plein de questions. Autre question, est-ce que cette dame ira voir le film de Polanski?
Est-ce que j'irai le voir? Oui, oui, mais...
Oui, mais...
Oui, mais...
C'est-à-dire, vous allez rentrer dans la salle avec...
Alors non, j'irai peut-être pas le voir au cinéma.
Ah.
S'il passe à la télé, j'irai le voir, j'aurai moins l'impression de cautionner, peut-être.
Vous allez regarder le dos tourné à la télé?
Non.
Non, mais je préfère demander, parce que là, en ce moment, qu'ils font un peu du moonwalk, hein, notamment pour la promo. Jean Dujardin, par exemple, clairement, il avance à reculons. Hein. On l'a vu, gros moonwalk, quand il est venu à la matinale, il a niqué toute la moquette, hein, tellement il avance à reculons. S'il pouvait faire la promo de manière anonyme, complètement floutée, Jean Dujardin, il le ferait. Louis Garrel, pareil, hein, il fait bien de faire de la pub pour du parfum, parce que ça pue un petit peu cette histoire. Alors, c'est des questions qui sont pas simples, et j'en ai plein d'autres.
Est-ce que vous regarderiez, par exemple, un film fait par Xavier Dupont de Ligonnès?
Alors, non.
Ah, non.
Alors, lui...
Là, non.
Enfin, quoi que...
Si c'est un beau film.
Je sais pas, c'est... S'il raconte, tout dépend ce qu'il raconte.
Eh ben voilà, mais oui, mais non, mais c'est vrai, ça compte. Si le gars, il fait un tuto sur les terrasses, bon, ben on peut regarder. Mais non, mais ça, on se dit, il y a une expertise, quoi. Voilà, le gars connaît le sujet. Bon, s'il fait une comédie familiale, bon, on regarde, mais quand même d'un œil un peu distant. Voilà. Alors, c'est pas prévu, hein, qu'il fasse une comédie, je dis, parce que le service des partenariats à France Inter, ils sont au taquet. Hein. Je dis quoi? Bah, vas-y, on le prend. Non, non. Calmez-vous. Allez, on continue à bien séparer l'homme de l'artiste.
L'artiste n'a rien à voir dans cette affaire-là. Moi, je suis pas.
L'artiste et l'homme, c'est différent pour vous.
Ah oui.
Par exemple, est-ce que vous iriez à une expo de peinture faite par Guy Georges?
Ah là, c'est autre chose aussi. Ah, il est vache, lui. Il
paraît qu'il fait des super peintures.
Mais non, mais là.
Oui, vous séparez pas vraiment l'homme de l'artiste.
Non, c'est vrai.
C'est vrai, c'est dommage parce que Guy Georges, ce sont avant tout ses histoires sentimentales, hein, qui lui ont coûté sa carrière. C'était un gars brillant, un super coup de pinceau, hein, Guy Georges. Il voulait peindre au couteau à la base. Mais on lui a dit non, Guy, pose ça délicatement sur le sol. À chaque fois, ça se passe mal. Mais bon, tant pis, c'est une histoire quelque part qui est gâchée par la bien-pensance. Et c'est vrai que par certains aspects, ça rappelle le destin brisé des grands hommes, comme Polanski, hein, dont cette dame m'a parlé.
Je sais pas, c'est un peu pour lui. C'est moche, quoi.
finalement, de se retrouver comme ça coincé. On ressort des dossiers à chaque fois. C'est pas terrible pour lui. Finalement, ça lui casse aussi son l'aura de l'artiste.
Vous pensez qu'il est un peu victime de ça ?
Oui, ouais. Oui, oui.
Et c'est ça le problème des personnes agressées. Elles ne pensent pas à l'aura de l'artiste. Et heureusement que pour ça, il y a la police et la justice française qui n'en ont absolument rien à foutre des témoignages des meufs. Parce que voilà, sinon, il n'y aurait plus beaucoup de films, hein, je veux dire, au cinéma. Voilà. Heureusement aussi qu'au niveau justice, il y a la prescription qui ajoute un petit côté chat perché, je dirais, assez sympa. Eh, mais tu m'as violé ? Ouais, mais c'était il y a longtemps, chat perché. Voilà. Je dirais même plus exactement un chabite. Voilà, si je veux être tout à fait précis sur les termes. Et c'est vrai qu'on se demande bien pourquoi les filles hésitent à porter plainte. On est étonné. Mais ce monsieur, là, le dernier monsieur, il est également étonné par le concept même du viol.
Un majeur, on est quand même plus responsable de soi-même. On accepte ou on n'accepte pas.
Bah oui, mais si elles se sont fait violer, c'est qu'elles n'acceptent pas.
Violer par force ?
Ah bah violer par force, oui, j'imagine, oui.
C'est encore autre chose.
Parce qu'il y a du viol, pas de force ?
Moi, j'en ai connu qui disent non, puis qui disent oui après. Hein.
Par exemple, si je vous viole et que vous me dites non, je dois entendre que c'est oui ?
Non. Ah. C'est un viol intellectuel.
Ah oui, je l'ai violé intellectuellement, excusez-moi, pardon. J'espère que ça ne nuira pas à ma carrière de l'avoir violé intellectuellement. Bon, sinon, au pire, je dirais que moi aussi, je suis un artiste, que je l'ai violé physiquement quand il était gosse, et puis ça passera. J'aurai plein de complices et de soutien dans les médias. On gerbe, on vous en parle.
Merci Guillaume. Je vais tout de suite recontacter la RTBF par le truchement de Thomas Gundzik, voir s'il reste éventuellement une place pour qu'on puisse finir notre carrière d'idiot. Merci Guillaume.
Je vous en prie, c'est un plaisir en tout cas de bosser avec vous.
Demain peut-être pour votre prochain reportage. Faut-il séparer l'homme de l'artiste quand il porte le voile ? Il est 17h44 sur France Inter. Thomas Gundzik est en notre compagnie. On va aborder cet autre sujet avec vous. La Belgique n'a pas de gouvernement depuis 6 mois. Normal, ce serait déstabilisant pour les Belges d'en avoir un, on est d'accord. Mais dans cet État fédéral, la Flandre, elle, a un exécutif et les Flamands l'ont bien senti quand cet exécutif a annoncé une baisse de 60% du budget alloué à la culture, au projet culturel. Les subsides passeront en janvier de 8,5 millions d'euros à moins de 3,5 millions. Alors pour certains, il semble que cette nouvelle soit un soulagement. Mais c'est une niche. Hein.
J'ai un ami belge, je ne veux pas me moquer des Belges, hein, surtout qu'il est flamand. Il gagne à être connu, c'est quelqu'un de formidable, il écrit des chansons de jazz magnifiques et ça marche pas du tout. J'essaie de l'aider, de le faire connaître, voilà, je voudrais vous chanter sa chanson la plus connue et la plus belle aussi, qui s'intitule « en flamand », qui veut dire « j'en sais rien, c'est du flamand ». C'est pas du flamand, c'est de la batterie, hein, c'est de la...
Ah bah oui, Danny Boone, un des rares Français à faire rire les Belges avec des trucs de Belges. Alors, Thomas Gundzik, racontez-nous, c'est reçu comment ? Parce qu'on voit bien que là, la Belgique est précurseur de ce qui peut se passer dans plein de pays européens. Pardon, mais la montée du nationalisme, là, chez les Flamands, c'est du concret, c'est moins 60% de budget de la culture. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite remontée de terrain de comment c'est reçu, comment ça se passe ?
Bah, en fait, ce qui est surprenant, c'est que les gens soient surpris, parce que c'est quand même un peu l'extrême droite dans ses œuvres classiques, quoi. Mm-hmm. On sait très bien comment ça fonctionne. On arrive, on coupe les subsides à la culture, parce qu'on estime que la culture va un petit peu, pas toujours dans le sens voulu par le nationalisme qui est prôné par nos amis de la NVA. Mm-hmm. Et qui est absurde, parce que la justification du truc, c'est, il faut économiser de l'argent, alors qu'il est quand même prouvé par d'éminents économistes que la culture fait gagner de l'argent. Et donc, ils vont perdre de l'argent. Mais que l'idéologie, là, est beaucoup plus forte que la raison économique, ce qui prouve bien que c'est toujours mauvais calcul de voter pour les nationalistes.
Et l'argument qui fait froid dans le dos, c'est celui de votre Jambon, c'est ça ?
Oui. Jambon.
Yann Jambon, voilà. Qu'on peut traduire par Jean Jambon, qui est le ministre-président du gouvernement flamand et qui a en charge la culture en plus.
Oui, et qui a dit des choix plus sélectifs conduiront à un meilleur soutien. C'est ça qui fait peur aussi. C'est l'idée du choix sélectif, oui, c'est la pluie mouillée. Donc, c'est a priori non. Mais c'est comme le tri sélectif. C'est l'idée que donc, on choisirait. Toi, tu peux. Toi, c'est culturel. Toi, c'est pas culturel. C'est épouvantable.
Oui, mais c'était dans le programme donc de la NVA, qui sont ces nationalistes flamands, de défendre ce qu'ils appellent l'identité flamande. Mais c'est évidemment les nationalistes qui déterminent ce que c'est.
Voilà,
que
c'est ça. Flamande.
Voilà. Il y avait une très belle interview à la RTBF ce matin, justement, du directeur du KVS, qui est un très beau théâtre flamand à Bruxelles, et qui se désolait évidemment, qui mettait en garde les Flamands, la Belgique, et tout le monde peut-être contre ce genre de conneries.
Et qui dit notamment dans Le Soir, nous étions déjà ratissés jusqu'aux os. qui nous reste désormais, ce sont des os brisés. Donc ouais, ça va voilà. Très loin. Yann Yumbon, ce ministre-président donc de la communauté et de la région flamande, il s'occupe aussi de la culture. Est-ce que, je me trompe, il était ministre de l'Intérieur aussi avant?
Il était ministre de l'Intérieur.
On avait, c'est oui, logique.
J'ai eu le bonheur de faire des billets radio en face de ce monsieur.
Ah oui, ouais.
Jolie balade.
C'est ça, c'est un petit peu comme si Gérard Collomb ou Christophe Castaner étaient ministres de la culture demain. Quoi.
C'est un grand courant d'air froid dans le studio.
Mais attention, version nationaliste, hein, ouais. Parce que là, on est quand même trois crans. on est bien, on est sur une bonne lancée. Vous sentez, vous êtes bruxellois, donc c'est encore différent. Vous vous sentez malgré tout un peu menacé par ça, ou en
menacé,
étant bruxellois?
Oui, mais d'abord parce qu'on a beaucoup d'amis chez les artistes flamands qui sont des gens fabuleux, formidables, créatifs à mort, qui font plein de choses comme ils peuvent. Et parce que, par voie de ricochet, évidemment, en tant que bruxellois, il y a beaucoup de choses qui se font avec les Flamands, donc il y a beaucoup de choses qui se feront tout simplement plus. Voilà. Oui.
Thomas Gunzig, vous publiez un roman intitulé Feel Good aux éditions du Diable Vauvert, et Clara Dune-Pomono nous a proposé il y a quelques temps de le chroniquer. On a dit hop, pas tout de suite, puisqu'on va l'inviter, Thomas Gunzig.
Mais oui, c'est vous notre actualité, Thomas. Alors, vous êtes belge. N'ayez crainte, hein, nous comprenons ça ici. Nous sommes très tolérants envers les êtres différents et un tout petit peu barrés. Et la preuve que vous êtes un petit peu barrés comme on aime, c'est que vous avez imaginé une révolte sans mort, sans violence, sans bruit, si bien planquée qu'on ne comprend même pas qu'il y a eu révolte. Alors, c'est un peu le résumé de votre roman. Vous racontez finalement une prise de pouvoir par la douceur. Cette définition, à moi personnellement, elle me parle parce que c'est aussi la définition d'un sport qui est l'équitation, et que ma prof d'équitation me dit souvent qu'avec le cheval, il s'agit de prendre le pouvoir par la douceur. Non, mais c'est vrai. Donc vous êtes un peu un jockey littéraire, Thomas. Vous dites, non, le Guillaume Canet du roman. Vous savez pas que Guillaume Canet fait du cheval?
Oui, si.
Merci, voilà. Si. Donc cette vanne ne n'atteint personne. Mais moi, je sais peu.
On est happé par votre intelligence. Voilà. Clara.
Moi, je serai la Charlotte Casiraghi de la critique et tout ira bien.
Casiraghi.
Oui, Casiraghi. Ouais. Voilà, ouais.
Sinon, la vanne marche moins. Bon. Quand c'est pas le
moment. Venons-en au fait.
Comment prend-on le pouvoir avec tact et doigté? C'est ça que vous racontez dans ce livre. Mais sans le cynisme de Bellamy de Maupassant, sans la cruauté du comte de Monte-Cristo, et surtout sans la moustache de Staline. Et ben d'abord, il faut s'appeler Alice. Donc votre héroïne, elle s'appelle Alice. Elle est vendeuse dans un magasin de chaussures, dans une petite ville. Et toute sa vie, elle a vécu, Juliette le disait, tout juste. Pas pauvre, pas misérable, mais tout juste. Personnellement, j'aime beaucoup cette notion de tout juste parce qu'elle est très pratique, elle va avec tout. Vous avez des coupes de cheveux tout juste, vous avez des intelligences tout juste, vous avez des copulations tout juste aussi, vous avez des tas de choses tout juste. Et Alice, elle a des finances tout juste. Et le jour où son magasin de chaussures ferme, alors là, c'est plus tout juste, c'est juste cata, 45 ans, un petit garçon, pas de boulot, équation anxiogène. Alors elle a une première idée, c'est kidnapper un bébé riche et demander une rançon. Là, première tentative de prise de pouvoir, mais avec violence et assez peu de sens moral. Bon, le résultat, c'est que elle échoue. Personne ne réclame le bébé. Et donc, le résultat, c'est
bol.
Voilà, pas de bol. Elle se retrouve avec deux enfants et elle a toujours une centaine d'euros par mois. Vient l'idée de la révolution futée, indolore. Je cite, on ne va rien voler, mais on aura quand même pris quelque chose qui ne nous appartenait pas, qui va changer nos vies, dit Alice. Et ce qu'elle va prendre, c'est une étiquette d'écrivain. Parce qu'elle va faire un livre qui va se vendre. On appelle ça un feel good book, un ouvrage censé rendre les gens heureux avec, je cite, de la psychologie à trois sous, inspiré d'un titre simple, genre suggère Alice, la vie est belle, ou la vie est belle pour les gens qui s'aiment, variante, les amis c'est pour la vie. L'idée, c'est que plus c'est tiède, mieux ça passe, et moins c'est riche, et plus on le devient. Hein. D'ailleurs, ça n'est pas étonnant si Guillaume Meurice est en train d'écrire un livre nommé « Le bonheur est une fleur qu'il faut rempoter chaque jour ». Il a tant de pensions alimentaires non honorées. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans votre livre, c'est qu'en matière de coup d'État ouaté, la révolte d'Alice, c'est pas celle de l'homme révolté de Albert Camus, qui cherche du sens contre l'idée de l'absurde qu'est la vie. C'est une sorte de dissidence cérébrale. La révolte d'Alice, elle n'est pas non plus anonyme, comme le fut Wikileaks, par exemple, autre exemple de rébellion non violente. La révolte d'Alice, elle est poussée par la faim, donc elle reste individuelle, poussée par la nécessité, mais surtout, elle détourne les codes d'un système, ici le système éditorial, elle lui rentre pas dedans, elle l'infiltre et elle le torpille pas de l'intérieur, elle le retourne à son avantage. Parce que la révolte, parfois, c'est ce que vous dites, Thomas, c'est aussi ça. La révolte, c'est se donner le pouvoir de nourrir ses enfants correctement. Je vous redonne les références. Feel Good de Thomas Gunzing est paru au Diable Vauvert.
Merci Clara Dupont-Monod. Une chronique que vous pouvez réécouter en podcast si toutefois vous l'avez pris en cours et sur franceinter.fr. Thomas Gunzing avec nous. Juliette a choisi un troisième sujet.
Oui, parce que le sujet d'inquiétude numéro 1 en France avant Daesh, le climat ou le chômage, c'est les geôles. Les jeunes veulent nous empêcher de rire. Les jeunes, sous couvert de progressisme et de repentance, ils sont les terroristes de la liberté d'expression. Ils sont les indignés perpétuels. Pourtant, c'est agréable de faire taire les gros lourds.
Et comment s'appelle la ravissante demoiselle, là ?
Elle s'appelle Sarah.
Elle a une bouche, Sarah. Elle peut répondre, peut-être ?
Ouais, elle va répondre.
Et toi, tu peux aller me chercher la clé ?
La clé ?
Pour fermer ta gueule.
Ça va, on discute, on fait rien de mal.
On a le droit de dire que t'es jolie, c'est bon.
Ouais, c'est ça. Bah, si tu veux te toucher, tu vas sur le net et tu me lâches.
Hey, tu peux parler poli.
Parle bien. Interdit, hein. Parle bien, je vais t'en coller une, moi. Ouais.
Mais vas-y, colle-moi-en une, que j'ai l'ADN de ta race sur moi et je te balance au keuf pour viol sur mineur.
Non, elle plaisante, là. Nos problèmes, elle se la joue fun.
On attend de la famille, on t'a dit. T'as capté ou il faut un SMS de confirmation?
Alors Thomas Gunzig, les trois frères, le retour, voilà, film des inconnus.
C'est un article de Technicar qui donc a intitulé cet article La génération pardon. Ils disent que c'est un truc des millénials que de prêcher beaucoup pour le politiquement correct. Et on a pensé à vous parce que comme moi, vous êtes vieux.
Oui, bah, ça, je vous confirme. Oui, c'est ça. Les pauvres. Oui.
Alors quel effet ça vous fait? Est-ce que vous trouvez vous que les millénials
Non, mais en fait, j'en sais rien. J'ai pas remarqué ça. J'ai remarqué, par contre, que les enfants sont souvent chiants avec leurs parents. Ils les reprennent, ils leur donnent des conseils, ils les jugent. Il faut pas faire ceci, il faut pas faire ça. Je crois que ça a toujours été comme ça. Enfin, depuis Platon, on se dit, mais les jeunes ne sont plus aussi bien que ce qu'ils étaient, qu'ils n'arrêtent pas. Voilà. Donc, je pense qu'on redécouvre, génération après génération, que les jeunes sont quelquefois un peu chiants. Et puis les jeunes deviennent vieux et trouvent que leurs propres jeunes deviennent chiants.
Logique.
C'est le cycle de la vie.
Et on a pensé à vous aussi pour ce sujet parce que donc Alice, elle passe son temps juste avant de se rebeller, juste avant de trouver les moyens de sa rébellion, elle passe son temps à dire qu'ils aillent se faire foutre. Et c'est pas une manière de remettre en cause le politiquement correct, c'est de remettre en cause les injonctions. En revanche, Alice, je pense pas qu'elle aimerait tellement qu'on fasse des blagues sur les pauvres et la manière dont les riches parlent d'elle, par exemple.
Oui, ben ça c'est effectivement la violence contre laquelle elle s'oppose, c'est la violence, comme vous le dites, des injonctions, c'est-à-dire des modes d'emploi tout faits qu'on reçoit longueur de journée
sur Facebook, dans la presse, à la
Twitter,
télévision,
dans la télévision, et qui en fait vous enferme, vous étouffe. Si vous avez le malheur d'avoir comme moi des enfants, vous ne pouvez pas leur montrer des écrans avant tel âge, sinon leur cerveau, vous pouvez pas leur parler comme ça, vous pouvez leur donner à manger ceci, etc., etc. Donc vous vous trouvez complètement enfermé dans toutes sortes de comportements qui sont impossibles à tenir. Donc vous êtes angoissé, donc vous êtes malheureux, donc vous vivez mal.
Et qui sont infantilisants.
Absolument.
Et voilà. Thomas Gunzig, on aimerait bien jouer avec vous parce que comme vous êtes chroniqueur radio, je suis sûre que vous touchez un peu votre bille en comédie.
Alors, on a remarqué que la droite avait besoin de faire exister ses idées. Alors la droite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit des livres. Ouais. Alors ils s'y sont tous mis, voilà. Ouais. Tous les ténors de la droite s'y sont mis. Comment choisir un livre? On a imaginé deux clients joués par Charline et Guillaume dans une librairie. Vous, Thomas, puisque vous l'avez été, vous serez le libraire qui va les aider à choisir un livre de droite.
Ben vas-y, demande au libraire.
Non, toi d'abord.
Non mais j'ose pas, c'est trop la honte.
Je peux vous aider?
Oui, alors on cherche un livre de...
Genre un livre interdit aux enfants, enfin voyez
un
quoi.
Un livre érotique?
Non, alors pas du tout. Non.
Écoute, nous sommes de droite.
Voilà. Vous n'assumez pas, je comprends.
Voilà, on est comme LR, on est complètement perdu. Mais quoi.
Est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller?
Je peux vous proposer Contre-pouvoir.
Contre-pouvoir?
Non, c'est pas un peu trop révolutionnaire ça?
Pas du tout, c'est de Gérard Larcher.
Quoi? Ah bon? Gérard, il écrit?
Ah, ah Ah oui, bah un livre de cuisine, sûrement.
Oui, je vous accorde que le livre est un peu indigeste.
Ah. Bon, vous n'aurez pas quelque chose de plus excitant?
Ah, je vous conseille Passion. Ah.
Alors, non, c'est-à-dire qu'on voudrait plutôt un livre politique.
Oui, hein, pas un navet de la collection Harlequin.
C'est un ouvrage de Nicolas Sarkozy.
Non, écoutez, on vous répète qu'on voudrait un livre politique.
Oui, avec des idées, en fait. Ouais.
Un livre politique de droite avec des idées, vous me posez une colle. Ouais.
Et celui de Valérie Pécresse.
Excellente blague.
Quoi, son livre ou ma question?
Les deux.
Non, mais attendez, qu'est-ce qu'on va devenir là?
Vous aimez le coloriage?
Ah bah d'accord, ah bah alors on en est là.
Ah
alors,
non, vous allez nous refourguer une œuvre de Christian Jacob, quoi, c'est ça?
Je pensais plutôt à celle d'Alexandre Benalla.
Mais non. Il est de droite, Benalla?
Bon, si vous voulez absolument un livre de droite, j'ai bien une vieillerie à vous proposer.
Jacques Chirac, mais il est mort, hein?
Non, c'est Révolution de Macron.
Ah oui, ah, oui, ah, oui, pas de doute, oui. Ça, c'est bien la droite, hein, ça on aime, oui. Merci beaucoup Thomas Gunzig.
Un plaisir.
C'était un plaisir de passer cette heure en votre compagnie. Donc je rappelle que votre roman s'intitule Feel Good, qu'il est paru aux éditions du Diable Vauvert. Tiens, est-ce qu'il est sélectionné dans des prix, des trucs comme ça,
le... Dans le prix du style, les amis.
Wow, ah,
et ça me fait énormément plaisir.
Ça c'est chouette, c'est quoi le prix du style? C'est en Belgique ou en France? Moi,
alors, c'est en France, c'est le prix le plus important de toute la scène littéraire française.
Ah, c'est vrai.
Oui, on croit que c'est le Goncourt. Non, c'est le prix du style.
Ah, c'est super. Alors, on va vous suivre. Alors, on sort à quand pour les résultats?
Je crois que c'est la semaine prochaine.
Oh,
si je l'ai pas, je me suicide.
Non, on a besoin de vous. On a beaucoup aimé votre roman. Feel Good. On vote pour. Merci les amis. Merci Constance, Clara Dupont-Mono. Merci Juliette et Guillaume. À demain, nous recevrons également une écrivaine. Tiens, demain, nous recevons l'écrivaine Fatou Diome.
Bah oui, mais je sais pas très bien lire. Je sais même pas du tout.